France Culture. Bonjour Daniel Poli.
Bonjour.
On va parler des combats actuels pour ce cinquième et dernier épisode. Peut-être des menaces qui pèsent aujourd'hui, on est en 2025, hein, sur l'océan, et des solutions pour le protéger. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode « Les poissons n'ont pas encore perdu ». Mais une question personnelle quand même, ça fait presque 50 ans que vous alertez sur la dégradation des océans, que vous dites que ça va mal et qu'il faut faire quelque chose. Est-ce que vous en avez pas marre en constatant que la situation empire ?
En effet, j'en ai marre. Et donc, j'ai, en tant que prof à l'université, j'ai un travail à faire, j'ai un projet à gérer qui documente les pêcheries, qui donne des outils et des données à des gens, à des collègues, pour suivre ce qui se passe. Et je participe bien sûr à des papiers et tout. Mais c'est un peu difficile de maintenir un enthousiasme continu depuis 50 ans et de taper la tête contre un mur qui bouge pas. Alors, entre-temps, j'ai aussi repris un thème que j'avais développé dans ma thèse de doctorat, qui était présentée en 79. C'était au retour de l'Indonésie, j'avais réalisé que les poissons qui ressemblent à des thons, des maquereaux et autres, ils mouraient beaucoup plus rapidement que les poissons qui ressemblent à des merous et autres poissons calmes. C'est-à-dire, ils ont la chair rouge, les thons, et la chair blanche pour les merous. Et donc, leur survie et leur besoin d'oxygène est relié à la circulation sanguine, bien sûr, qui distribue de l'oxygène. Et donc, ça m'a poussé à voir, en fait, c'est l'oxygène qui pénètre par les branchies dans le corps du poisson, qui détermine un peu son niveau d'activité. Et j'ai suivi ça, c'est ma thèse, et j'ai découvert que, en fait, un poisson, il est limité toujours dans son niveau d'activité par le rapport entre la superficie de ses branchies, qui détermine combien d'oxygène peut pénétrer, et le poids de son corps, qui détermine l'oxygène dont il a besoin. Et plus un poisson grossit, moins il a d'oxygène par unité de poids. Et si vous augmentez la température, le besoin d'oxygène augmente et la disponibilité d'oxygène, elle diminue. Donc, le poisson est coincé.
Et il s'étouffe.
Et c'est juste. Mais ça n'intéressait personne à l'époque parce que c'était un problème de zone tropicale. Maintenant, le réchauffement climatique et la déoxygénation des océans, c'est devenu un problème brûlant. Et donc, ce thème que j'avais développé, presque ludique, pour une thèse, quoi. Tout d'un coup, c'est devenu actuel. Alors, c'est devenu maintenant une sorte d'obsession scientifique. Je travaille des tas de papiers dessus. J'ai publié 2 bouquins dessus. Je vais en publier un troisième sur l'effet de l'oxygène, ou plutôt la limitation de l'oxygène pour les poissons. Et ça devient plus important pour moi, au moins au niveau émotionnel, que la pêche. Parce que la pêche, en fait, la situation est bien claire que ce qu'il faut, c'est plus de la recherche, c'est des interventions politiques. Et là, les interventions politiques, je ne les maîtrise pas. Par contre, le développement de cette théorie que j'appelle Gill Oxygen Limitation Theory, le développement de cette théorie, elle est vraiment nécessaire. Il faut que je la continue un peu parce que certains collègues ne sont pas convaincus. Ils ont toutes sortes d'explications. Par exemple, il y a moins d'aliments. Mais quand il fait chaud, il y a moins d'aliments. Alors, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'aliments? Pourquoi est-ce que les poissons qui seraient leur proie seraient plus petits? Ça devient, le problème reste le même. Donc, il y a des collègues à convaincre et quand le travail sera fait, je pense que ça va durer 2-3 ans de plus, eh bien, on aura une théorie forte pour expliquer ce qui se passe quand on a des changements climatiques. Et ça m'intéresse maintenant beaucoup plus que la documentation de la surpêche parce que c'est un fait établi. Que c'est ce qu'il faut, c'est des interventions politiques. Et de plus, j'ai découvert que un logiciel que j'ai développé il y a 40 ans, plus de 40 ans, qui s'appelle Elephant, il est tout à fait adéquat pour estimer la croissance d'animaux fossiles. Alors, j'ai découvert avec des paléontologues que on pouvait estimer la croissance de trilobites qui vivaient il y a 400 millions d'années et de d'autres bestioles qui n'ont même pas de nom qui vivaient il y a presque 550 millions d'années. Et donc ça ça m'intéresse vraiment parce que il y a pas d'amateurs qui vont me dire oh Pauli il exagère voilà, on peut faire de la science sans avoir d'intérêt politique, d'intérêt économique qui vont vous dire que vous êtes biaisé. Et ça devient un enjeu intellectuel et j'adore ça et c'est devenu vraiment ce qui m'intéresse vraiment.
Donc travailler sur les fossiles, c'est votre oxygène à vous,
oui,
si je comprends
exactement,
bien.
Exactement, exactement.
Dites-nous quand même, Daniel Pauli, en quoi l'océan, c'est l'organe vital de notre planète ?
Alors, c'est l'organe vital de notre planète parce que la capacité thermique, la capacité d'absorption de chaleur et de dioxyde de carbone est immense comparée à l'atmosphère. Et donc, si on n'avait pas d'océan, ça serait déjà la désertification du monde. La Terre deviendrait absolument invivable. Nous serions déjà tous morts s'il n'y avait pas d'océan. Mais nous sommes déjà en train de transformer les océans et leur capacité d'absorber du dioxyde de carbone parce qu'il en a déjà absorbé beaucoup. Et sa capacité d'absorber de la température, de la chaleur, évidemment, c'est difficile. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'il en a déjà absorbé beaucoup. Et donc, si on continue comme ça, on va avoir des sérieux ennuis parce que si le Groenland fond, les glaciers du Groenland et surtout ceux de l'Antarctique, une couche autour du Groenland, une couche d'eau douce, parce que l'eau qui fond des glaciers est douce, et empêchera la descente d'eau très froide dans le Nord Atlantique. Donc, ça va interrompre la circulation des océans et leur aération. Donc, on va avoir, dans quelques décennies, on peut très bien avoir une situation où on interrompt la circulation globale des océans qui maintient l'oxygène et la température des océans. Et ça, c'est incroyable. C'est la destruction du système global qui maintient les océans comme ils sont.
Il y a la question de l'eau. On parle d'ailleurs puisque vous évoquiez la température de l'eau, on parle de plus en plus de canicules marines.
Oui.
On parle d'acidification de l'océan. Et ça a des effets, vous nous le montriez déjà tout à l'heure, mais ça a des effets sur la vie dans l'océan.
Oui. C'est ça. Alors, des canicules marines, par exemple, on va les associer aux canicules terrestres. Et une canicule terrestre, pour les mammifères que nous sommes, on va transpirer beaucoup, il y a des vieux qui auront de la peine à s'adapter, qui vont mourir, peut-être il y a des nouveau-nés qui vont mourir, mais en fait, une canicule, ça tue pas beaucoup de gens sur Terre. Par contre, une canicule marine, ça tue les animaux. Pourquoi ? Parce que une canicule marine, ça correspond pas à la chaleur, ça correspond à la fumée. C'est comme un feu de forêt. Et un feu de forêt, il ne tue pas les gens à cause de la température.
Ça les asphyxie.
C'est des asphyxies. Or, les poissons qui sont exposés à des températures élevées, ils s'asphyxient parce qu'ils n'ont pas l'oxygène qui leur permet de vivre. Donc, il faut associer une canicule marine ou une canicule aquatique, parce qu'il y en a aussi en eau douce, à un feu de forêt. Et un feu de forêt, c'est facile à imaginer, ça tue des tas d'animaux qui ne sont pas brûlés. Et on en a régulièrement en Méditerranée et dans d'autres coins.
Et pour les poissons, qu'est-ce qui est le plus ravageur pour les poissons et pour l'océan ? Est-ce que vous diriez que c'est la pêche en eau profonde ? Parce que les espèces qui vivent au fond de l'océan ont un rythme de reproduction plus lent ? Est-ce que vous diriez que c'est les chaluts ? Est-ce que vous diriez que c'est un problème de subvention ? Est-ce que c'était trois réunis ? S'il y a d'autres choses ?
C'est bien sûr la pêche et les subventions qui la rendent possible. Pourquoi ? Parce que la pêche, c'est la seule activité humaine qui est faite pour enlever des poissons de la mer, pour tuer des poissons. Les autres activités, les canicules, la pollution, tout ça, c'est fait pour se débarrasser de trucs dont on n'a pas besoin, donc on jette du plastique dans l'eau et tout. Et c'est pas fait pour tuer les poissons. Or, par contre, la pêche, c'est fait pour tuer les poissons. Donc, et ensuite, les chaluts, c'est fait pour détruire les fonds marins. ça peut pas faire autrement.
Ça racle tout au fond.
Ça racle le tout au fond. Donc, ça continue d'être la pêche, le grand problème. De plus, les abondances de poissons ont réduit leur diversité génétique. Et si la diversité génétique est réduite, il n'y a pas d'effet darwinien de sélection par rapport au défi de la température. Alors, j'explique. Vous avez, dans une population de poissons, vous en aurez qui, par hasard, certains qui résistent bien à la température et certains qui ne résistent pas à la température. Donc, ce sont ceux qui ne résistent pas qui vont mourir les premiers. Et ensuite, ceux qui résistent bien, ça devient les ancêtres de la population qui va suivre. Mais s'il y a peu de poissons, il y a peu de variabilité. Et donc, il n'y aura pas ceux qui sont, par hasard, peu sensibles à la température. Donc, il faut avoir beaucoup de poissons dans l'eau pour avoir ceux qui pourraient résister mieux que les autres. Donc, on réduit la biomasse des poissons, on réduit l'abondance des poissons, on réduit leur capacité d'adaptation.
Mais est-ce que dans ces populations qui se réduisent, il n'y a pas aussi des populations ou des espèces qui apparaissent? Je me souviens, il y a quelques émissions, quand vous évoquiez Fishbase, vous avez dit... chaque année, il y a 500 nouvelles espèces qui apparaissent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a 500 nouvelles espèces que vous découvrez, ou est-ce que c'est 500 nouvelles espèces ?
Non, c'est des espèces qui n'ont pas été décrites parce qu'elles étaient trop rares. Et elles étaient, donc, ce ne sera pas des espèces abondantes. Ce dont vous parlez, c'est plutôt des espèces invasives. Par exemple, en Méditerranée, il y a des tas d'espèces qui viennent de la mer Rouge. Il y a, par exemple, des poissons... Ah, je ne sais pas comment on dit. Des poissons ballons. Ils se gonflent comme ça. Eh bien, ils ont empoisonné, ils ont des becs qui bouffent tous les filets, qui détruisent les filets. Ils sont immangeables, donc ils sont empoisonnés. Et il est interdit de les débarquer parce qu'ils sont empoisonnés. Et donc, maintenant, ces poissons, dans l'est de la Méditerranée, en Turquie surtout, et en Grèce, ils forment 50% des prises. Et voilà des pêcheurs qui ont des filets qui ne durent que 5-6 fois moins qu'avant, parce qu'ils sont bouffés par ces poissons rongent les filets, et ils ne peuvent pas débarquer le poisson, c'est des poissons qu'on doit jeter, et c'est une espèce invasive qui est venue par le golfe de Suez. Ça, c'est le problème. Des espèces invasives. Bien sûr, les espèces invasives, elles nous viennent de l'océan Indien et Pacifique, qui en ont beaucoup, et elles entrent dans l'Atlantique par l'intermédiaire du golfe de Suez, la Méditerranée. Et donc, ça va bientôt arriver en France, sur les côtes françaises, vous allez voir les résultats.
Est-ce que c'est facile de réparer l'océan ?
Non, ça prend du temps. Mais les aires marines protégées, quand elles sont vraiment protégées... Après...
C'est 0,8% de la surface des océans,
ouais,
c'est ça ?
C'est
rien du tout.
C'est rien du tout.
Aujourd'hui,
mais
en tout cas.
Une aire marine protégée, vraiment, tout de suite, va s'améliorer. Au bout d'un an ou deux, vous verrez déjà une petite différence. Et dans les zones tropicales, ça va très vite. 5-6 ans, et vous avez presque la même chose qu'avant. Par contre, ici, ça dure une dizaine d'années. Mais une aire marine protégée, elle va rétablir la mer. Pourquoi ? Parce que la mer, elle est connectée partout. C'est pas comme une forêt, qui est peut-être isolée d'une autre forêt, par des champs, et les graines ne peuvent pas passer d'un an à un autre. Dans la mer, les larves, et les œufs, ils sont transportés d'un coin à l'autre. Donc, on peut repeupler facilement une aire qui était où il n'y avait rien. Elle peut être repeuplée très rapidement.
Oui, on évoquait le thon rouge dans l'émission précédente.
Oui, il se remet très bien.
Qui est revenu entre 1995 et 2015 grâce justement à une bonne gestion des ressources par les autorités. Mais en même temps, on est ici dans les locaux de l'association Bloom. Et l'association Bloom alerte sur le fait qu'aujourd'hui, même les aires protégées ne sont plus protégées.
C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été en France.
Les pêcheries vont aussi dans les aires protégées.
Le fait est que une aire marine protégée en France n'est pas définie. Donc, on déclare, le président déclare une zone énorme, 30% des eaux de la France métropolitaine, et il n'y a rien qui protège quoi que ce soit. Donc, on peut tout faire. Alors, la question qu'on pourrait poser, c'est protéger de quoi ? Et bien sûr, je propose, elles sont protégées contre les Martiens. S'il y avait des Martiens qui essayaient de s'établir dans nos aires marines protégées, bien sûr que la marine interviendrait. Mais il n'y a pas de Martiens. Donc, par contre, il y a des chalutiers. Et les chalutiers, ils démolissent tout. Alors, je ne peux dire que si on essayait de cueillir des plantes dans le jardin, des pâquerettes dans le jardin des plantes, avec des bulldozers, c'est l'équivalent, et j'ai pas exagéré, c'est l'équivalent du chalutage. Et les aires marines protégées en France sont chalutables. Et d'ailleurs, on le fait parce que j'ai des collègues qui ont publié un travail dans Science que des aires marines protégées, elles ont été déclarées dans des zones où il y a beaucoup de poissons, où il y a des poissons qui voudraient la peine de sauver. Donc, il y a plus de pression de pêche à l'intérieur des aires marines protégées. Et donc, Bloom a fait un film sur le chalutage dans les aires marines protégées. Et c'est une contradiction en termes.
C'est quoi les solutions pour vous?
Parce
qu'on les connaît.
C'est en fait.
Protéger les aires marines protégées. Mais pas seulement. Par rapport à la pêche, est-ce que une gestion locale, équitable, raisonnée de la pêche, par exemple, ce serait un bon point?
Ça serait un point merveilleux parce que si on cessait de subventionner la pêche industrielle, on s'en débarrasserait automatiquement. Parce que la pêche industrielle, elle n'est pas rentable. Elle n'est pas rentable parce que ces énormes bateaux, ils ne peuvent pas attraper assez de poissons pour payer leurs frais. Et donc, ils disparaîtraient tout simplement de partout s'ils n'avaient pas de subventions. Les subventions, c'est de l'argent que les contribuables payent pour avoir des écoles, des hôpitaux. Qu'est-ce qu'on fait? On donne ça à des armateurs pour qu'ils construisent des longs bateaux pour aller pêcher là où il n'y a pas de poissons.
Donc arrêter les subventions aux pêcheries industrielles, créer des sanctuaires marins qu'on respecte, les aires marines protégées, interdire certaines zones de pêche à des navires trop gros.
Mais bien sûr, il faut absolument séparer les petits et les gros bateaux. Et il faut, autour de chaque côte, une zone de 10, 20 kilomètres où les gros bateaux ne peuvent pas entrer. De sorte que les pêcheurs artisanaux peuvent opérer sans avoir cette compétition. Et avec ces trois trucs, aires marines protégées qu'on protège vraiment, pas de subvention à la pêche industrielle, une zone de séparation entre les deux formes de pêcherie, on aurait une amélioration automatique de l'océan qui nous pardonnerait tout ce qu'on lui a fait de mal.
Soutenir la pêche artisanale, c'est aussi soutenir quelques 500 millions de personnes dans le monde qui vivent de cette pêche.
C'est pour ça que dire que les gens qui luttent contre la pêche industrielle sont contre la pêche, c'est absolument faux, parce que on s'intéresse surtout au bien-être de ces millions de pêcheurs et leurs familles. Et les gens qu'ils alimentent, qui vivent le long de la côte, qu'ils alimentent en poisson, ce que la pêche industrielle ne fait pas. Parce qu'entre autres, la pêche industrielle, elle produit du poisson qui est consommé par des porcs, par des saumons, par des cultures animales. Et on fait même de l'engrais avec du poisson. Et donc, c'est fou du monde.
Alors, projetons-nous, Daniel Poli, dans le futur. Disons quand ces émissions, cette série à voix nue sera rediffusée. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan cette année 2025, dont la France d'ailleurs a fait l'année de la mer, l'année 2025?
Que Macron, notre président, nous dise « J'ai considéré l'absurdité du chalut dans les zones marines, dans les aires marines protégées, et il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de chalutage dans les aires marines protégées. Et ensuite, il dira, on va réduire les subventions à la pêche industrielle parce qu'ils ont assez de sous. S'il disait ça, ça serait fantastique, prix Nobel, on lui dit tout.
En fait, les solutions, on les connaît.
Il suffit, entre guillemets, de les appliquer. C'est pour ça que je travaille maintenant sur la paléontologie, sur les fossiles, parce que les solutions, on les connaît.
Est-ce que vous êtes optimiste?
Je trouve que c'est une mauvaise question. Parce que quand il y a un problème devant vous, la question, c'est pas si on est optimiste ou pessimiste. La question, c'est ce qu'on va faire. Et je m'inspire là du fameux discours de Churchill en juin 1940. Les nazis étaient prêts à sauter sur l'Angleterre et la France venait de l'armistice, quoi. Et il a eu ce fameux discours, on va les combattre sur les plages, dans les collines, de l'air, de nos colonies, on va les combattre partout. Parce que la question, c'est pas, est-ce que vous croyez qu'on va gagner ou qu'on va perdre? C'était pas sa question. C'était la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce qu'il a proposé de faire, c'est lutter contre, dans ce cas-là, l'Allemagne nazie. Et pour nous, c'est exactement le même problème. C'est pas, est-ce que je suis optimiste dans le sens que les humains vont survivre? Est-ce que je suis pessimiste dans le sens que on va bouillir tous les animaux qui vivent dans la mer? Bah, je sais pas. Je sais pas vraiment où ça va finir. Mais ce qui est clair, c'est que tant que je serai en vie, je continuerai à dire ce qu'il faut dire. Voilà.
Je peux vous en poser une deuxième mauvaise? Parce que comme on a parlé de la pêche pendant ces 5 épisodes, je suis obligé de vous demander si vous continuez de manger du poisson et,
ah, ça,
et
je c'est sais l'autre que mauvaise question.
Voilà, moi, je mange... arrêter de manger du poisson, c'est pas une bonne question, mais expliquez-nous pourquoi.
Parce que je pense que choisir le poisson qu'on mange en considérant les poissons qui sont protégés, qui sont, c'est une bonne idée, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On doit le faire pour ne pas être trop hypocrite, mais ça suffit pas. Il y a trop de gens qui sont satisfaits, qui sont satisfaits par
le fait. C'est de la bonne conscience, quoi.
Ils ont une bonne conscience. Mais c'est pas avec l'estomac qu'on peut gérer la pêche. On peut la gérer avec le cerveau, avec le cœur, mais pas avec l'estomac.
Bon, je vais vous emmener quand même dans un pays que vous aimez, puisqu'on parlait d'oxygène et que vous en avez besoin d'un peu de souffle pour garder votre combativité, Daniel Poli. Un pays que vous aimez bien, c'est le pays où nous nous trouvons, la France. Vous êtes quand même réconcilié avec la France, même si ça n'avait pas très bien commencé pour vous.
Oui.
Et en particulier, en France, il y a une région que vous aimez.
La Creuse.
Vous vous retrouvez en famille, en Creuse. Ça, ça vous fait du bien?
Oui, en fait, c'est ça que la réconciliation, c'était la Creuse. Je me souviens une fois, j'étais dans une rencontre tout à fait bête à l'UNESCO, je crois que c'était à l'UNESCO, et j'ai loué une voiture, je suis allé voir ma mère. On lui avait acheté une petite maison dans un village avec 16 personnes, 32 vaches, et elle était là à la retraite, elle avait un jardin, elle avait des poules. Mes frères et sœurs lui rendaient visite souvent, moi moins souvent parce que j'habitais au Canada. Et je suis allé là pour 3 jours, et ça a fait un bien incroyable, parce que la Creuse, il n'y a pas trop de gens. Il y a surtout des vaches, il y a surtout des beaux champs et tout. Et il y a des petites routes qui sont très bien maintenues par les cantonniers. Donc, on quitte la civilisation, on quitte la ville et toutes les bêtises qu'il y a. Et on va, voilà. Et puis à l'époque, il y avait une dame qui lui rendait visite tous les matins pour voir que tout se portait bien. Il y avait un espèce de camion qui a une épicerie sur roue. Et c'était un petit paradis. Bien sûr, les gens quittaient la Creuse, mais c'était un petit paradis. Je me suis réconcilié avec la France à cette époque, oui.
Je voudrais vous poser une question sur la reconnaissance, malgré tout, que vous avez obtenue, Daniel Poli, parce que si je remonte 20 ans en arrière, en 2003, vous devenez le directeur du Fisheries Center de Vancouver, vous intégrez l'Académie des sciences au Canada, le magazine Scientific American vous classe parmi les 50 scientifiques les plus influents, et puis ensuite, il y a eu, je ne sais pas, une quarantaine de prix de distinction, peut-être l'un des plus importants, c'est en 2005, le prix Cosmos de l'écologie qui est décerné chaque année. Non ?
Tyler, the Tyler Prize, c'est beaucoup plus important.
C'est plus important oui. que le prix Cosmos.
Oui.
Et récompense quoi le prix Tyler?
C'est eux qui prétendent être le prix Nobel de l'environnement, pas le prix Cosmos.
On dit souvent que c'est le prix Cosmos, on se trompe alors.
C'est pas ça du tout. Le prix Cosmos, c'est une erreur qui a été répandue par un journaliste du Monde, et puis en France, non.
Oui, c'est le bruit qui court. Mais c'est aussi parce que le prix Cosmos, il a récompensé Richard Dawkins, Jared Diamond, Jane Goodall, Philippe Descola. Et vous?
Ils n'essayent même pas. Et ils ne disent même pas, c'est le prix Tyler. C'est le prix d'environnement qui veut être le prix
le plus haut.
Correspondant. Oui.
Et que vous avez obtenu?
Avec mon collègue Rachid Soumala, un économiste des pêches, oui.
En quelle année?
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans? Donc en 2023?
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous êtes sensible à cette reconnaissance? Est-ce que ça vous fait souffler? Est-ce que ça vous fait plaisir?
Vous connaissez le syndrome de l'imposteur? j'ai toujours un peu ça. Parce que quand on commence à penser que des prix qu'on reçoit sont mérités, c'est malsain. En fait, un peu d'humilité, c'est tout à fait approprié. Parce qu'il y a des choses qui vous tombent dessus, on ne s'y attend pas du tout. Par exemple, ça.
Ça, c'est quoi ça?
C'est la Légion d'honneur. ça m'est tombé dessus. On ne sait pas. D'accord, c'est comme la pluie, en fait. On ne sait pas d'où ça vient, quoi.
Quand même, Daniel Pauly.
Non, parce que quand on fait de la science, on a toujours des collègues qui ont fait plus que nous. Alors, c'est ça l'idée. C'est que. On a toujours des Darwin ou des Einstein qui sont bien meilleurs. Donc, on n'arrive pas à se voir au sommet de. C'est comme, j'imagine que c'est comme la poursuite de l'argent. Il y a toujours des gens plus riches. Et donc, on est toujours insatisfait. Et donc, je suis satisfait. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment résoudre des problèmes. C'est pas les prix, bien sûr. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir dans Scientific American qui démontre que les bonnes idées, elles sont souvent motivées par un intérêt donc scientifique. Elles sont jamais motivées par le fric. Jamais. Les récompenses externes, qui n'ont rien à faire avec ce qu'on fait, elles n'ont aucune influence positive sur la créativité. Et donc, j'essaie de pas y penser, et puis les choses me tombent dessus. Bon, ça, bon, c'est bon, mais j'espère de ne pas y penser du tout.
Et la question du leg, de la postérité?
Alors là, c'est autre chose. Là, c'est tous les scientifiques veulent en avoir. Et vu l'évolution des océans qu'on va faire bouillir, au pire, et l'évolution des océans qui peut-être vont mal se développer, le futur, le leg de scientifique, ça va pas être la pêche, ça va être la relation avec l'oxygène que les animaux ont, qui respirent de l'eau. Parce que c'est un problème scientifique qui n'a pas été bien abordé. Et je travaille là-dessus, et ça m'intéresse beaucoup plus que les problèmes de la pêche, parce que en fait, c'est plus un problème scientifique.
Donc vous avez changé, parce qu'en 2003, la revue Nature... avait publié vos réponses à un questionnaire de Proust. Et à la question « Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous ?», vous aviez répondu « Comme de quelqu'un qui a montré que l'effet des pêcheries sur la vie marine est équivalent à l'impact d'une météorite de grande taille sur la Terre. »
Voilà.
Ça quand même, plus l'oxygène, la respiration des poissons.
Oui, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore redéveloppé cette thématique. Ce qui s'est passé, c'est en 2013... Un collègue a utilisé cette théorie pour démontrer que les poissons deviendraient plus petits. Et la réponse de certains physiologistes a été tellement négative que, comment c'est clair? Mais non, pourquoi est-ce qu'ils écrivent ces bêtises? Alors que ça a remis en marche tout le système et c'est maintenant pour ça que je travaille là-dessus. À cause de cet commentaire ridicule de certains collègues.
Merci Daniel Pauly.
Je vous en prie.
Pour ces 5 entretiens. C'était À Voix Nue avec Daniel Pauly. Réalisation Véronique Samouilov. Prise de son Yvan Charby. Chargé de programme À Voix Nue, Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.